Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio 1, sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir, bonsoir, il est 5h57 avant minuit, on est un petit peu en retard, mais bon, quand même ravi de vous retrouver sur les ondes de Syllab après cette petite semaine de break. La lumière est de retour dans le studio, là, ça faisait depuis 1895 qu'on n'avait pas vu ça, c'est beau, on est bien. Nouveau jeu concours en vue, notre partenaire Le Triangle, cité de la danse rennaise, vous offre une place pour le spectacle Infinité d'Ivan Alexandre. Ça se passe le jeudi 13 mars prochain à 20h au Triangle, bien sûr. À voir sur scène la tension, l'élan, la lutte, la tendresse entre deux danseurs, une danse vivante, sensible, qui se renouvelle à chaque représentation en remettant en jeu les rôles et la distribution entre les deux artistes, tout en convoquant des souvenirs et des gestes du répertoire de la compagnie Ivan Alexandre. Infinité témoigne d'un amour profond pour la danse en constante métamorphose. Ça vous a donné envie d'y aller, je suis sûre. Alors, allez jouer pour gagner. Vous aurez besoin d'un mot de passe qui est, comme ce spectacle en est rempli, la tendresse.
Bonjour.
Rendez-vous sur c-lab.fr pour jouer tout de suite le flash de Cyriane.
Depuis 3 ans, la Russie bombarde sans relâche l'Ukraine, espérant s'approprier des terres qui ne lui appartiennent pas, a dénoncé la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, dans un communiqué. Ce lundi, l'Union européenne a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, ces dernières ciblant 73 nouveaux pétroliers fantômes utilisés par la Russie pour contourner les sanctions déjà existantes destinées à limiter les exportations de pétrole russe. A noter également l'interdiction d'importer de l'aluminium russe dans l'UE. Ursula von der Leyen a annoncé une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine. Emmanuel Macron est lui aujourd'hui à Washington pour rencontrer Donald Trump. Vidé, tel est l'état des camps de réfugiés palestiniens de Jenin, Tul Karem et Nour Shams. Hier, Tsahal envoyait pour la première fois depuis 2002 des chars à Jenin en Cisjordanie occupée. Depuis un mois, l'opération militaire baptisée Mur de fer israélienne visant à empêcher le retour des déplacés est mise en place par le ministre de la Défense israélien Israël Katz. J'ai donné pour instruction aux soldats de se préparer à un séjour prolongé dans les camps qui ont été évacués pour l'année à venir et de ne pas permettre le retour de leurs habitants et habitantes ni la résurgence du terrorisme, a-t-il déclaré dans un communiqué. Depuis son déclenchement, l'opération a fait au moins 40 morts et 40 000 déplacés dans le nord de la Cisjordanie, selon l'ONU. Auf Wiedersehen à Olaf Scholz.
Quel accent !
Eh oui, les 5 ans d'allemand m'ont beaucoup
servi. On les ressent.
Les résultats des élections législatives allemandes pour élire les nouveaux membres du Bundestag, l'Assemblée parlementaire allemande, sont tombés hier soir. Et le parti du chancelier allemand a fini en 3e position. Devant lui, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD, et celui qui a remporté le plus de voix, le parti principal centre-droit, l'Union chrétienne démocrate, le CDU, allié avec l'Union chrétienne sociale, le CSU.
Les élections législatives allemandes nous rappellent que trop bien nos élections législatives françaises de juin 2024. L'annonce surprise d'une dissolution de l'Assemblée générale par Macron, qui laisse place à la course et aux étincelles entre les partis politiques français. Et enfin, arrive le choc face aux résultats des votes. Comme pour la France l'année dernière, hier soir, les résultats allemands ont montré la place majeure de la droite et de l'extrême droite avec des pourcentages de vote significativement plus hauts par rapport aux années précédentes. 28,6% des voix pour l'alliance conservatrice entre l'Union chrétienne démocrate et l'Union chrétienne sociale SDU-SCU. 20,8% des voix pour le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne AfD, 16,4% des voix pour les sociaux-démocrates du SPD, soit le parti du chancelier sortant Olaf Scholz. Vraie descente aux enfers pour le parti du chef du gouvernement qui avait remporté 25,7% des voix aux dernières élections législatives de 2021. Alors que pour Alice Weidel, la chef de file de l'Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, a réalisé le meilleur score de son histoire et je cite « ils n'ont jamais été aussi forts au niveau national ». Mais celui qui est mis sur le devant de la scène, c'est Friedrich Merz.
Mais qui est-il donc, ce potentiel nouveau chancelier allemand ?
Oui, c'est le potentiel nouveau chancelier allemand. Après que les Allemands et Allemandes aient élu leurs députés au Bundestag pour les 4 prochaines années, les élus doivent maintenant élire leur nouveau chancelier. Chef de file du parti centre-droite conservateur triomphant pendant les élections, le SDU, Friedrich Merz a les cartes en main pour réaliser ses meilleurs coups et mettre de son côté le plus de députés possible afin de devenir le nouveau chef du gouvernement allemand. Nathalie Le Bodec, professeure en civilisation allemande à l'université de Bourgogne, raconte à France Info qu'il y avait tout un courant qui prônait une modernisation du parti SDU dans lequel s'inscrivait Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. A l'inverse, Friedrich Merz. J'ai pas fait allemand, Cyrian, ok.
Tout le monde n'a pas eu cet honneur. C'est pas grave, on a compris.
Vous avez compris. Friedrich Merz incarnait la SDU traditionnelle, conservatrice sur le plan sociétal et libérale sur le plan économique. Pour donner quelques exemples de mesures que met en avant Friedrich Merz, il souhaite renforcer les restrictions sur l'immigration avec des contrôles durables aux frontières, le renvoi des étrangers sans papier, y compris des demandeurs d'asile et un délai de 8 ans pour demander cette citoyenneté allemande. Il s'était d'ailleurs allié le 29 janvier dernier avec l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, pour faire adopter une motion non contraignante visant à durcir la politique migratoire, selon France Info. Ayant fait bon ménage avec l'AfD, il y a seulement donc quelques semaines, le patron du CDU, souhaitait aller voir de l'autre côté et confie à la presse aujourd'hui vouloir une coalition noire-rouge avec le SPU, le SPD, en référence aux couleurs des deux partis. Je suis déterminée à avoir des discussions constructives et rapides avec les sociaux-démocrates, a-t-il expliqué devant la presse. Il assure également disposer d'un mandat clair pour changer le cap politique du pays et vise pour, au plus tard Pâques, un gouvernement de coalition. Que ce soit l'AfD ou même le parti écologiste Les Verts, les partis partagent depuis hier leur souhait d'intégrer une coalition de gouvernement.
La stabilité politique en Allemagne est à juste titre un grand atout. C'est ce qu'avait affirmé le président d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, en décembre dernier. Nouveau rebond dans l'affaire Betaram. Affaire massive d'un demi-siècle d'agressions sexuelles et de violences physiques sur mineurs, ayant eu lieu dans l'école béarnaise catholique de Notre-Dame de Betaram. Une plainte a été déposée donc ce vendredi dernier à l'encontre de François Bayrou, pour non-dénonciation de crimes ou délits. D'après le journal Sud-Ouest, La victime affirme avoir été témoin durant l'année scolaire 1987 et 1988, je cite, d'une scène de violence alors qu'il était en étude avec la fille aînée du Premier ministre. Fille qui aurait, je cite toujours, forcément raconté la scène à ses parents. Depuis une dizaine de jours, le Premier ministre François Bayrou est accusé par témoins et victimes d'avoir fermé les yeux sur l'affaire, bien qu'élu local ou encore ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Une autre affaire de violence contre les enfants s'ouvre, elle, dans le Morbihan, à Vannes. C'est le procès de la plus grande affaire française de pédocriminalité. 299, c'est le nombre de victimes du chirurgien Joël Le Squarnec. Leur moyenne d'âge est de 11 ans, allant de quelques mois à 70 ans. Les faits recensés au travers de ses carnets, CD et disquettes dans lesquels il détaillait chacune de ses agressions ont eu lieu sur plus de 30 ans, jusqu'en 2017. Année lors de laquelle il agresse sa petite voisine de 6 ans. Viol à la suite duquel les parents déposeront plainte. Plus de 300 000 documents pédopornographiques ont aussi été retrouvés dans son ordinateur. Le chirurgien avait avant cela déjà été condamné en 2005 à 4 mois de prison avec sursis pour avoir téléchargé des images de ce type. Et en 2020 à 15 ans de réclusion pour les viols et agressions sexuelles de 4 enfants, dont deux étaient sa nièce. Bien qu'informés de cette toute première condamnation en 2005, les autorités médicales n'ont jamais empêché le Squarnec d'exercer. Une nouvelle loi d'orientation agricole a été adoptée par un ultime vote au Sénat le 20 février dernier. Le texte, élaboré comme une réponse à la colère des agriculteurices, ne semble pourtant convenir ni à ces derniers et dernières, ni aux associations de protection de l'environnement qui dénoncent son futur impact négatif sur les écosystèmes français. Ludovic Brossard, chargé de mission agriculture et biodiversité au sein de la Ligue de protection des oiseaux en Bretagne, nous en explique les tenants et aboutissants.
Alors l'article 13 de la nouvelle loi d'orientation agricole qui a été votée il y a quelques heures ou quelques jours par l'Assemblée nationale, en fait, fait un focus sur les atteintes environnementales et présente en fait une dépénalisation des atteintes illicites aux espèces et habitats protégés. La LPO nationale, comme la LPO Bretagne et d'autres associations environnementales ou d'autres associations d'agriculteurs et d'agricultrices qui défendent une agriculture plus durable, nous pointons l'article 13 et l'ensemble de la loi d'orientation agricole comme une loi qui présente un recul, notamment sur les enjeux environnementaux. L'article 13 vient appuyer au final une impunité à l'ensemble des acteurs qui vont détruire des habitats et des espèces protégées, alors que justement, le constat que l'on fait sur le terrain auprès des agriculteurs et des agricultrices, c'est qu'il faut préserver un certain nombre d'habitats et d'espèces, notamment des oiseaux. On a par exemple le râle déjeuner, qui est un oiseau qui compte aujourd'hui en France seulement 80 à 90 mâles reproducteurs. Donc on est on est vraiment au bord de l'extinction concernant cette espèce. On a d'autres espèces comme le bruant jaune, qui est plutôt une espèce commune dans nos campagnes, dont les effectifs ont diminué de 73% en 20 ans. Ce sont des exemples qui montrent qu'on est face à un déclin de la biodiversité qui est largement documenté aujourd'hui et qu'il faut plutôt préserver cette biodiversité et faire en sorte d'accompagner les agriculteurs et les agricultrices vers des pratiques beaucoup plus durables, plutôt que de promulguer des lois qui viennent finalement encourager la destruction des espèces et des habitats. Le message, il est simplement de dire qu'il n'y a pas de contradiction entre l'activité agricole et la nécessité de préserver notre environnement, nos écosystèmes, l'air, l'eau, la santé. Et donc le message à faire passer, c'est un message d'espoir et non de confrontation, de dire que à la fois les agriculteurs, mais à la fois les associations de protection de l'environnement, vont dans le même sens.
Un témoignage recueilli par Kylian. En décembre dernier, Vern-sur-Seiche s'est muni de 11 caméras de vidéoprotection, la commune étant pourtant l'une des plus tranquilles d'Ille-et-Vilaine. Certaines captant l'entrée des bâtiments communaux et d'autres les routes permettant d'entrer et sortir de la ville. J'ai pris le bus et je m'y suis rendu sur place pour voir comment était reçue la nouvelle. Sur le coin du point accueil emploi situé juste en face de la mairie, est apparue une discrète serre noire soutenue par une structure en acier blanc. C'est une des caméras venant d'être installée par la commune de Vern-sur-Seiche. Je la fais remarquer à Martine, 67 ans et habitante vernoise depuis 30 ans.
C'est très bien parce qu'il y a une forme d'insécurité qui monte, je trouve, par rapport à avant.
Vous êtes déjà senti en insécurité ici à Vern?
Moi, non, parce que je ne sors pas le soir ou dans la journée, non. Ça se passe super bien. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, pour certaines personnes, ça peut être différent. Tout dépend dans le lieu où ils habitent, quoi. Moi, c'est très bien. C'est reculé en étant dans le centre-ville.
Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité maintenant que vous savez ça?
Oui, qu'il y ait plus de surveillance, oui. Parce que ça va de plus en plus dans le mauvais sens, ouais.
Maurice, 70 ans et 40 ans de présence Vern. Je ne vais pas aller à l'encontre des systèmes de caméras de surveillance, mais je ne pense pas que ça apporte vraiment une solution à la sécurité des individus, je ne crois pas. Non. Mais face aux incivilités, est-ce qu'il y a d'autres systèmes possibles? Je n'ai pas la solution. Elle passe certainement par une éducation, par un respect de l'autre, mais c'est beaucoup plus global comme vision de ce qu'on peut appeler surveiller, quoi. Surveiller, c'est peut-être d'abord éduquer.
Stéphane Labbé, le maire sans étiquette, penchant à droite, explique le choix d'une telle installation.
Bien que la commune soit la plus calme du secteur sud de Rennes, on a quand même une montée d'incivilité d'environ 50 dossiers de plus que 2023. Nous avons installé ces caméras de vidéoprotection à la suite d'effractions que nous avons eues sur nos bâtiments du domaine public et on a voulu protéger nos bâtiments puisque nous avions beaucoup beaucoup de frais pour les réparations. Et donc suite à des effractions qu'il y avait à l'école de musique et des vols d'instruments de musique que nous avons retrouvés chez des soldeurs dans les villes avoisinantes de notre commune, on a demandé conseil auprès de la gendarmerie. On a une préconisation de 25 caméras et en fin de compte on en a mis 11 sur un budget de 150 000 euros avec une aide de la préfecture de 25 000 euros pour installer sur tous les bâtiments publics de la commune.
Et surtout, nuance à souligner selon la mairie, ce sont des caméras de vidéoprotection et non de surveillance.
Les caméras de surveillance surveillent les habitants, surveillent les passants, alors que nous, nos caméras de protection, de vidéoprotection, sont déclenchées que quand la gendarmerie le demande, sous un arrêté. De façon, après, une effraction, une agression, les films sont visionnés pour pouvoir avoir des témoignages.
Quelques jours après leur installation, les caméras ont été mobilisées dans... Le Stade Rennais serait-il enfin sauvé ? Ce vendredi, les Rouges et Noirs se sont encore une fois imposés. Cette fois-ci face à Reims, au Roazhon Park. Ouh. Score final 1-0 avec un but sur pénalty de Kalimundo. C'est la troisième victoire en 4 matchs depuis l'arrivée du nouveau coach Habib Bey.
Back in the game.
De leur côté, les Violettes du CBB Brechini se sont elles aussi imposées ce dimanche. Victoire 2-1 face à l'ESOF Vendée-la-Roche. Les joueuses du cercle Paul Bert sont 5e au classement de la poule A de la D3, s'assurant elle aussi le maintien. De quoi clôturer un week-end heureux pour le footballeur rennais. Youpi. Bon, un peu moins youpi. Des stations Saint-Germain à Colombier, il a couru. Mais ça n'a pas suffi. 4 secondes, c'est le temps qu'il a manqué hier à Gabriel Angers pour réussir son défi. Le sportif de 20 ans s'était donné pour objectif d'aller plus vite. Non pas que la lumière, mais que le métro B entre les deux stations. Eh oui, gros défi.
Forrest Gump.
L'originaire de Nouveau-Atout n'est pas complètement désespéré, puisqu'il compte bien évidemment retenter sa chance.
Et on sera là pour suivre cette épopée. Merci Cyriane pour ce flash. On passe à l'interview, c'est Eva qui a des invités ce soir.
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Lunettes rondes et pull bordeaux comme le mien. C'est Emmanuel Parent, enseignant-chercheur en musicologie à côté de moi, mais également Marguerite Marie. Lunettes rondes avec un petit foulard au cou. Et Eva, non pas moi, une autre Eva qui a aussi des lunettes rondes et une belle chemise fleurie du master Les Amériques à Rennes 2. Bonjour.
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 Tout d'abord, pour rappeler le contexte de maintenant, de cette semaine, est-ce qu'on peut rappeler le contexte de du Black History Month et un peu en parler de qu'est-ce que c'est ?
Alors le Black History Month, c'est un rendez-vous qui s'est développé aux États-Unis, je crois, à partir des années 70, dans le cadre de la lutte pour la reconnaissance de la culture noire, les droits civiques, etc. Et donc tous les ans, au mois de février, il y a des manifestations dans tout le pays qui célèbrent la culture noire, mais aussi les inventeurs. Il y a une forte dimension scientifique, les inventeurs qui sont un peu méconnus ou qui ont disparu de l'histoire. Voilà, et donc... depuis quelques années, ça se développe un petit peu en France également. Et le service culturel de l'Université Rennes 2, en partenariat avec l'Institut franco-américain, ont souhaité inscrire la semaine Maquet dans le contexte Black History Month.
Et avant d'aller un peu plus dans la programmation de cette semaine Maquet, comment vous, Emmanuel Parent, avez été, comment en êtes-vous venu à travailler sur cette programmation et sur cette semaine de Claude Maquet ?
Alors, Claude Maquet, c'est un poète jamaïcain, naturalisé américain, qui est né à la fin du 19e, qui a été actif surtout dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, dans les années 30. Et il fait partie du mouvement de la Renaissance de Harlem, qui est un mouvement intellectuel des années 20, qui a vraiment célébré une sorte de renouveau de la figure noire américaine et qui est un moment de fierté noire, de Black Pride. On connaît les années 60, le Black Power, on connaît ce qui s'est passé la décennie dernière avec le Black Lives Matter, bien la Renaissance de Harlem, c'est aussi un mouvement de revendication, de création d'effervescence dans lequel voilà, cet écrivain un peu particulier s'inscrit. Moi, je le connais depuis assez longtemps. La première fois, j'étais étudiant en visite aux États-Unis à New York et j'étais arrivé dans un cours de littérature et il y avait cours sur Claude Maquet. J'avais été fasciné parce que en fait, c'est un écrivain qui a vécu en France et pas à Paris comme les autres, parce qu'il y avait pas mal d'intellectuels noirs qui vivaient à Paris, mais à Marseille. Et ça, c'est un peu étonnant. donc je vais essayer d'être bref parce que je pourrais partir longtemps sur cet auteur, mais il a choisi de vivre à Marseille avec le prolétariat noir qui venait de tous les horizons du monde africain mais aussi américain. C'était des matelots, c'était des anciens militaires de la Première Guerre mondiale qui traînaient sur place entre oisiveté, petite criminalité et musique. Et il a décrit cette atmosphère dans un merveilleux roman qui s'appelle Banjo. Et voilà, donc c'est lié à l'histoire de Marseille. Et donc moi je connaissais ça, mais il se trouve que parallèlement, à Marseille, il y a des artistes, des intellectuels, des universitaires, des musiciens qui se sont réintéressés à Claude Maquet un peu 100 ans après sa venue dans les années 20. Et c'est notamment venu d'un groupe de hip-hop reggae marseillais qui s'appelle Massila Sound System, avec son chanteur Moussa T, qui en fait s'est reconnu dans la figure du poète vagabond créole qui trouve à Marseille en fait un nouveau chez lui. Parce que c'est tous les gens de la diaspora, c'est tous les pauvres, tous les laissés pour compte. Ils ont des projets musicaux qui marchent jamais. Voilà, ils sont virés de bar en bar. Et pourtant, ils continuent avec une forme d'insouciance, de légèreté. Et voilà, c'est un peu... Donc, à Marseille, il y a des maisons d'édition, des collectifs d'artistes qui se sont emparés de cette figure de Claude Maquet et qui ont même créé un passage qui lui est dédié, le passage Claude Maquet à Marseille.
Et donc vous avez travaillé sur la programmation avec aussi les étudiantes en master les Amériques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait, comment était le déroulement du projet et...
Alors c'est dans le cadre de notre master, par groupe, on doit se répartir dans différents projets culturels pour un peu nous apprendre à gérer différents projets culturels et mettre un peu un pied dans ce milieu-là. Et du coup, pour notre part, nous, on avait choisi le projet Claude Maquet parce que, je vais parler pour moi, mais je trouve que c'était un projet intéressant parce qu'il permet d'allier un peu plusieurs disciplines. Il y a le côté culturel, le côté littéraire, il y avait aussi un peu un lien avec le monde de l'édition. Voilà. Et du coup, nous, le point du projet sur lequel on a été, je dirais, le plus actif, c'est la préparation d'une exposition qui aura lieu du coup à la BU. Voilà, pour présenter un petit peu la vie de Claude Maquet. Et nous, un élément de sa vie qui nous avait particulièrement marqué et qu'on voulait mettre en avant, c'est justement tout l'aspect du voyage. Qui va être quelque chose d'assez présent tout au long de sa vie et même dans ses livres. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans l'exposition.
Et particulièrement son voyage en Bretagne, donc à Douarnenez aussi, où on voulait préciser ce petit point, même si c'était pas un très très long voyage, mais il a quand même écrit un livre, Dîner à Douarnenez. Et donc, c'est quand même un deuxième livre écrit sur la France après Romance à Marseille.
Oui, il est souvent décrit comme un vagabond, j'ai pu le voir. Et je me demandais, comme vous avez travaillé sur l'expo et sur cette partie-là de sa vie particulièrement, est-ce qu'il y a un caractère particulier ou une présence particulière au vagabondage dans la vie de Claude Maquet? Qu'est-ce qu'il en ressort de ce vagabondage, par exemple, dans sa vie et dans ses œuvres?
J'ai l'impression que dans sa vie, il était beaucoup guidé un peu par la curiosité, par exemple, l'envie de rencontrer, que ce soit des hommes politiques, par exemple... c'est ce qui l'a amené jusqu'en Russie, ou une curiosité de comprendre un peu le monde qui l'entourait. Et ce côté-là se retrouve aussi pas mal dans ses livres, parce que, par exemple, dans Romance à Marseille, le personnage principal va beaucoup voyager, que ce soit... il vient d'Afrique, après il va arriver à Marseille, il va aller jusqu'aux États-Unis avant de revenir en France. Donc il y a quand même pas mal de mouvements à ce niveau-là.
Donc vous avez parlé de l'exposition, donc qui va être, le vernissage va être mercredi à 12h30 à la BU centrale, c'était bien ça. Il y a aussi d'autres événements. À 18h30, il y a une projection de Claude Maquet de Harlem à Marseille de Mathieu Verdeil. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du documentaire?
Oui, alors donc ce documentaire, c'est un documentaire de Mathieu Verdeil. Il a été fait à partir d'archives des poèmes de Claude Maquet, dont le plus connu est « If we must die ». C'est un poème très militant de Claude Maquet. Dans ce film, il y a également des experts de la vie de Claude Maquet, de la Renaissance de Harlem, qui s'exprime, qui le met en relation avec cette Renaissance de Maquet, de Harlem, où il a rencontré de nombreuses personnalités comme Harold Jackson, si je ne me trompe pas. Dans ce film, il y a aussi toutes ces correspondances avec son amant, Édouard Nenet, ces différents voyages, finalement, comme on a dit, en Russie, à Marseille, où il décrit assez longuement Marseille dans plusieurs extraits.
Et pour finir, il y aura le spectacle au Tambour à 21h, ce même jour, le mercredi 26. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ce spectacle? Pourquoi ce spectacle? Donc, qu'est l'être un poète disparu? Qu'est-ce qu'il raconte?
Oui, tout à fait. Ce spectacle, en fait, c'est vraiment la volonté de refaire vivre en musique la poésie de Claude Maquet, parce que quand on lit ses écrits, on voit bien qu'il était environné de musique. Et il y a deux romans sur Marseille qui ont été cités par Eva et Marguerite Marie. C'est Romancier de Marseille, mais l'autre dont je parlais tout à l'heure est Banjo. Et Banjo, ça suit l'histoire d'un petit groupe de musique qui vagabonde dans le quartier du Vieux-Port, le quartier de la prostitution, la fosse, le quartier de la fosse dans les années 20. Et il y a un morceau qui revient en boucle. Ce morceau, c'est Shake That Thing. Alors, dans l'argot noir américain, Shake That Thing, ça fait référence au fait de se bouger les fesses, mais c'est aussi une métaphore sexuelle du blues. Et en fait, on se rend compte, tout le monde devient fou quand Banjo, le héros du roman, se met à chanter Shake That Thing dans les bars du Vieux-Port. Et en fait, on sait que c'était aussi un tube de l'année 1925. Donc, c'est un vrai morceau de musique et c'est, qui a connu plusieurs reprises à Chicago, à New York, etc. Et c'est intéressant de voir que la culture mainstream de l'époque, un blues très populaire, se retrouve aussi dans cet endroit insolite qu'est le Vieux-Port de Marseille, animé par cette diaspora noire qui est à la fois africaine, martiniquaise, antillaise, américaine. Et je vous propose d'écouter une version par la chanteuse de blues S.L. Waters, qui est une version très lente. Vraisemblablement, quand on lit les descriptions de Claude Maquet, la musique que devaient jouer les gars du port a été certainement plus enlevée, mais j'aime aussi beaucoup cette version de S.L. Waters en 1925.
I'm getting sick and tired of telling you to shake.
pour retourner sur le sujet du Black History Month, j'ai vu que c'est initié aux États-Unis, donc vous l'avez dit, mais ça a été ramené ou importé en France que officiellement en 2018 en tout cas. Est-ce que vous savez si ici en France le Black History Month est, diffère ou en tout cas de ce que, comment on célèbre ici en France, est-ce que ça diffère par rapport à comment ils célèbrent aux États-Unis? Est-ce que...
Oui, tout est une affaire de contexte. Pour repartir sur l'anecdote de tout à l'heure, quand je suis arrivé en 2008 à New York, c'était à l'Université Columbia, j'ai rencontré ce prof, Brent Edwards, puis je lui dis, mais c'est génial, j'arrive au mois de février, c'est Black History Month. Et il a éclaté de rire et il dit, ah, ici à Harlem, Black History Month, c'est toute l'année. Donc, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Il se trouve qu'en France, il y a cette dynamique depuis 2018. Je ne pense pas que ce soit un mouvement extrêmement important. C'est plutôt pour se situer dans... pour faire connaître un peu cette histoire-là. Je pense que, par exemple, en Angleterre, cette question, la communauté noire est beaucoup plus calquée sur ces dynamiques politiques de lutte pour les droits civiques qui correspondent à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, en France, c'est plutôt symboliquement pour se situer en référence à cette histoire-là. On peut ajouter aussi qu'avec l'actualité politique immédiate et la nouvelle administration Trump, c'est quelque chose qui n'est plus soutenu officiellement, puisque ça fait partie de toute cette politique des identités qui est bannie par le nouveau gouvernement américain. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est que notre manière de le célébrer, c'est plutôt... on est aussi dans un centenaire, le centenaire Claude Maquet, et le centenaire aussi de la grève des ouvrières de Douarnenez, parce qu'il a été mentionné tout à l'heure rapidement que Claude Maquet est venu à Douarnenez. Mais c'est vrai que ça nous a intéressés parce que la nouvelle qui a été publiée par les éditions Électropisme, Dîner Douarnenez, est restée longtemps inédite. En fait, elle n'a même pas été éditée aux États-Unis, mais elle est éditée en France par les éditions marseillaises Héliotropisme. Et il se trouve que Maquet arrive à Douarnenez 6 mois après la fin de la grève des peines sardines, dont on a pas mal entendu parler ici en Bretagne, notamment grâce au livre de notre collègue Fanny Bunion, historienne. Sur la militante et ouvrière Joséphine Pencalette. Voilà, et Maquet en parle indirectement. C'est ça qui est touchant, c'est qu'il arrive après et il est bluffé par l'atmosphère très engagée, politique, communiste. Il faut se rappeler que 3 ans plus tôt, il était à Moscou, il rencontrait Zinoviev, Boukharine, Trotsky, des dirigeants soviétiques de premier plan. Mais il s'est un peu désengagé politiquement, mais son cœur bat toujours à gauche et il est... fasciné par cette ambiance du Finistère qui mélange un mode de vie traditionnel et un engagement politique radical, donc qui fait écho aujourd'hui dans tout ce mois de célébration.
Merci beaucoup d'avoir fait cette interview. Et pour rappeler peut-être les informations pour mardi et mercredi, il y a aussi mardi avec le service culturel universitaire, c'est le mardi de l'égalité, donc il y a une conférence aussi.
Tout à fait, oui, on a une conférence sur la pédagogie antiraciste avec le syndicat Sud Éducation à 18h dans les mardis de l'égalité. Et puis le lendemain, vernissage à 12h30 à l'abbaye centrale. Film sur Claude Maquet à 18h30 à l'Institut franco-américain dans le centre Métro-République. Et à 21h, pour terminer la journée, le spectacle Qu'est l'être un poète disparu, qui est donc un spectacle de jazz et de jazz poetry et de slam.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci. Merci. Bien belle programmation.
6h avant minuit.
C'est lundi, c'est l'heure des dingueries avec la chronique fake news. C'est toi, cette fois, c'est toi, Eva, qui
oui,
nous décrypte
moi.
Un fait.
Et rebelote pour Brigitte Macron. Ah. Après des premières diffamations il y a de ça 4 ans, fin janvier 2025, une nouvelle vague d'internautes français et internationaux se met en tête que Brigitte Macron, la femme du président français Emmanuel Macron, n'est pas qui elle prétend être. Jean-Michel Trogneux, ça vous dit quelque chose?
Non, non,
Jean-Michel Trogneux.
Oui, tu vois où je veux en venir, Cyriane. Laisse-moi revenir sur la situation qui lie Brigitte Macron à Jean-Michel Trogneux à Candice Owens. Et oui, car tout commence ou tout reprend de Candice Owens, la youtubeuse américaine à 4 millions d'abonnés. Il y a donc quelques semaines, le 10 janvier 2025, l'influenceuse ultra-conservatrice partage sur ses réseaux sociaux qu'une série de vidéos intitulée « Becoming Brigitte » va sortir avec le premier épisode prêt à diffuser le 31 janvier. Elle explique que la première dame française est en réalité une femme transgenre qui serait née avec comme nom de naissance Jean-Michel Trogneux. et qu'elle a les preuves pour justifier sa théorie. Preuves qui seraient donc étalées dans les 6 épisodes de sa série, allant de 20 minutes à 1 heure, couronnées d'une intro et un épilogue. Pour bien enflammer la toile, Candice Owens affirme aussi avoir reçu une lettre du couple Macron visant à l'intimider, alors qu'elle s'apprête à diffuser un contenu explosif sur le passé de la première dame française, confirme l'article d'AFP sur le sujet. Le fameux jour de la diffusion du premier épisode arrive, et une heure avant le direct, une, je cite, intense attaque de son site menée par, je cite, ce qui est clairement un acteur étatique, attise la curiosité de nombreux et nombreux internautes, et hop, la voilà déjà en tendance sur X. Mais maintenant que la foule est présente, qu'en est-il du contenu des épisodes? Y a-t-il vraiment des preuves prouvant que Brigitte Macron est une femme transgenre? Pour la faire courte, non. Pour la faire longue, la trentenaire catholique cite une farandole d'articles presse consacrés principalement aux proches du couple présidentiel, comme sur l'artiste Claude Lévesque, accusé de viol sur mineur, ou de Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Dans ces vidéos, le directeur est présenté comme un proche de Macron, notamment parce que Brigitte Macron a assisté à l'avant-première de son spectacle Starmania en 2022. Elle ajoute à ses propos sur le spectacle de Thomas Joly qu'il s'agit d'une mise en scène satanique et pense qu'il s'agit d'une preuve que le couple Macron fait partie d'un culte satanique.
Rien que ça.
Pour Candice Owens, elle dit « Cela ne peut pas être continuellement juste des coïncidences. Il y a juste trop de coïncidences. Tu ne peux pas tout le temps jouer la carte du « Tous mes amis sont pédophiles et trans, sauf moi », explique-t-elle dans le 5e épisode. Pour le reste des soi-disant preuves, la youtubeuse conspirationniste se base principalement sur des détails qu'elle qualifie de troublants sur des photos d'archives du couple présidentiel. Selon l'article d'AFP, elle utilise d'ailleurs une IA de reconnaissance faciale Face++++ pour comparer des photos de jeunesse de Brigitte Macron avec celles de son frère enfant, Jean-Michel, et en conclut qu'il s'agit de la même personne. Dans un article de France Info sur le sujet, il rappelle que son frère, Jean-Michel Trogneux, existe bel et bien, et qu'il a été vu et photographié à plusieurs occasions, notamment lors de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron en 2017. Le 14 février dernier, l'avocat de Brigitte Macron, Jean Enochi, a réagi sur la situation en disant « Les interventions de Candice Owens ne sont que des affirmations sans fondement, des amalgames pour convaincre des gens qui sont déjà convaincus par cette thèse délirante, s'il y en a encore. »
Merci Eva, quelque chose me dit qu'on reparlera de cette Candace Owens dans la chronique Fake News. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil?
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Téléphone.
Non, il n'y a personne au bout du fil, pas aujourd'hui,
oh
mais
non.
Voilà, pour que Eva soit plus joyeuse et que Cyriane soit moins triste, elle a les larmes aux yeux là. Laissez-nous un message vocal, c'est facile. Vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez, on diffusera ça à la fin de l'émission. Notre numéro, c'est le 02 30 96 25 35, n'hésitez pas, ça peut être anonyme, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire votre. On se voit demain, merci Marilyn pour la technique.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.